ça marche. Je vous salue. Pardonnez-moi de vous parler en chemise, mais je suis descendu des Cévennes, en veste de cuir. Et donc je préférais parler en chemise qu'en veste de cuir. Voilà. Vous dire mon bonheur de vous retrouver, nombreuses et nombreux. Vous dire que c'est d'abord la cause pour moi. Ce n'est pas ma famille d'origine, hein, je peux le dire. Hein, même si, je l'ai dit dans un mail à Alain, j'avais une grand-mère pour laquelle il fallait recueillir des timbres usagés. On disait que c'était pour les pasteurs. Et je pense que c'était pour la cause. Oui. Pardonnez aussi mon accent du midi, car je suis incapable. Et ne me dites pas qu'il y a du soleil dans mon accent, c'est très vexant de dire ça aux gens du midi, mais je prononce la cause, alors qu'il faut dire la cause, comme vous savez dire. Donc pardonnez-moi pour dire la cause, voilà. C'est donc une histoire d'amitié, c'est Alain, on était ensemble à Louis-le-Grand, Alain il y a 40 ans, ça ne rajeunit personne. Et puis c'est d'autres amitiés, ce sont les Durleman, c'est Mathieu Arnera, et puis toute l'équipe de la cause que je suis heureux de retrouver après avoir partagé avec eux l'ambiance de Carrière sous Poissy, les repas de la cause. Ça m'a rappelé, pardon de le dire, ça m'a rappelé l'ambiance des congrégations religieuses catholiques. J'ai fait ma thèse dans le catholicisme et ces repas entre spirituels et culinaires, ce sont de bons souvenirs du catholicisme et maintenant de la cause. Voilà. Et puis vous dire, il faut être œcuménique, hein, et je le suis très naturellement, vous dire aussi, il a parlé des greniers, donc sachez-le, l'hiver j'avais froid dans les greniers, je finissais par descendre, et l'été j'avais chaud dans les greniers, je finissais aussi par descendre. La cause pour un historien, c'est un continent archivistique. Et le jour où Antoine, Isabeau et Alain m'ont fait découvrir les greniers avec ces, je sais pas, il y a 250 grosses boîtes pleines d'archives, j'ai eu un moment de panique jubilatoire. J'aurais peut-être dû laisser la panique m'envahir et rentrer dans mes Cévennes et renoncer sagement, mais j'ai plus cette sagesse et finalement la jubilation l'a emporté, parce que c'est pas qu'une histoire d'une œuvre, c'est l'histoire du protestantisme français au XXe siècle, l'histoire de la cause, voilà. Et d'ailleurs, Christian a très bien dit ce mélange de spirituel et de social, les deux poumons. J'aurais dû dire à Christian et à tout le monde que c'était déjà ça dans les fondateurs de la laïcité française, et notamment ces deux grandes figures de l'école laïque et de la République laïque de Jules Ferry, deux protestants, un théologien et un ancien pasteur, Ferdinand Buisson et Félix Pecaud, qui disaient « un peuple ne vit pas seulement, du PIB ou des statistiques du chômage, il vit aussi d'une interrogation sur la vie et sur la mort ». Et ça, c'est Buisson dans les années 1880, et d'une certaine manière, Durleman est dans cette tradition-là. Voilà. Alors, comme je n'ai que 25 minutes, je peux vous annoncer que je serai long. Comme ça, vous avez un espoir que je sois bref, puisqu'en général, c'est ce que disent à l'inverse les orateurs. Ce sera un plan en trois parties. On est cagneux ou on ne l'est pas, Alain. Des parties de distance variable. Vous dire que la cause, c'est d'abord un homme, vous le connaissez, Frédéric Durleman. C'est une grande figure de fondateur. Est-ce que je peux dire que c'est un fou de Dieu? Oui, je ne sais pas, il y a sa famille là. Un fou de Dieu, je crois qu'il faut être un fou de Dieu pour être un fondateur. Alors, d'ailleurs, vous le savez, les fondateurs sont rarement indifférents à leurs contemporains. Il y en a qui fascinent, il y en a qui exaspèrent. Ça a été le cas de Frédéric Durleman, mais il n'y aurait pas eu la cause sans cet homme-là. Il y a aussi son épouse, dont je redirai un mot dans quelques instants. C'est aussi une famille. C'est devenu, que la famille me pardonne, c'est devenu une dynastie. Dans le dictionnaire biographique, dont j'ai dit un mot à Gérard Larcher tout à l'heure, puisqu'il va entrer dans le tome 3, dans le dictionnaire biographique de tome 2, il y a toute une série de Durleman, et les Durleman se sont établis, je dirais, dans ce modèle des dynasties pastorales à la française. Alors, ils viennent après les Cadier, ou après les Bost, mais avant les Lénard, et bien sûr avant les Monod. Je vous fais grâce des Monod. Est-ce qu'il y a des Monod dans la salle? Ah, quand même! Un seul Monod? Une seule Monod? Non, c'est pas normal. Il y a toujours 10% de Monod dans une assemblée de protestants, normalement. Voilà. Que je vous dise aussi, ça c'est frappant, est-ce que je peux dire que les Durleman et les Kaltenbach, je ne sais pas si on prononce comme ça, sont des Français d'origine étrangère. Et ça m'a intrigué, ils ne sont pas les seuls. Je crois qu'on ne mesure pas suffisamment l'apport suisse, et pas seulement francophone, l'apport suisse germanophone, alémanique, à l'histoire du protestantisme français au XIXe et au XXe siècle, amis Bost et les Monod d'ailleurs, et tant d'autres. Et ce qui est frappant, c'est que pardon de le dire, le prenez pas mal, cet étranger qui était finalement Dürrleman, il est devenu le champion de la cause, le champion d'une histoire qui n'était pas la sienne. Ça m'a frappé. L'histoire des souffrances des Huguenots français au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, ça n'est pas l'histoire généalogique des Dürrleman ou des Kaltenbach, et pourtant ils se la sont appropriés comme tant d'autres, et je vous propose de créer le néologisme huguenotisation, qui est important. Hein. Et je pense aussi que c'est d'ailleurs une manière, mais ce n'est pas le sujet, j'ai promis d'être long, hein. C'est une manière peut-être d'intégrer certains évangéliques, qui n'ont pas l'histoire des Huguenots sous la Saint-Barthélemy ou sous Louis XIV, mais qui peuvent, je dirais, rejoindre le courant d'une histoire dans laquelle il y a cette mémoire des persécutions passées. Voilà. Et puis, et ça a été dit à très juste titre par Christian, Dürrleman, au début de sa longue carrière, au début du XXe siècle, il appartient à ce puissant, alors certes il est dérisoire au regard des quantités françaises, mais il est sur le plan spirituel et socio-économique important, ce puissant christianisme social, et c'est pas un hasard s'il a rejoint, je dirais, la centrale, le bouillon de culture de ce christianisme social, qui était le Nord ouvrier, le Nord prolétarien. Et tu as cité Wilfred Monod, laisse-moi citer un Cévenol, Élie Gounel, et laisse-moi citer un autre étranger, un métèque, comme disait Maurras à l'époque. Pardon de citer Maurras, hein. Je peux citer Maurras, hein, Charles, c'est pas politiquement correct. Ça va? Ok. Henri Nick, est-ce que vous connaissez Nick? Fou de Dieu aussi, hein. Meneur d'hommes. Il a été le meneur de Dürrleman, il a été le meneur de Gounel et de Monod, il a été le meneur d'un type qui a le même âge que Dürrleman, mais qui était aux antipodes de Freddy Dürrleman, mais qui est une grande figure, André Trocmé, le passeur pacifiste du Chaumont-sur-Lignon. Voilà. Et donc, c'est dans ce bouillon de culture ouvriériste, prolétarien, que Dürrleman a formé sa manière d'être, sa manière de convertir. Et j'en viens, je vous rassure, j'en viens à ma deuxième partie par une transition. La cause a publié les lettres qu'il a échangées avec son épouse pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était aumônier dans la marine, ce qui n'est pas courant d'être aumônier dans la marine, surtout pour un pasteur protestant. Et là, il a découvert, ça m'a fasciné, il a découvert dans la marine des officiers, la grande tradition de l'armée française qui est très catholique. Il a découvert des officiers catholiques, il a découvert des matelots catholiques, il a découvert l'ignorance à peu près totale de l'évangile chez les uns comme chez les autres. Il a compris dans ses 4 ans passés sur les navires de guerre français, navires hôpitaux, il a compris qu'il fallait évangéliser ou réévangéliser, comme vous le voulez, la France. Et il a été frappé de l'ignorance totale des matelots, une ignorance, si vous voulez, paillarde, païenne, entre guillemets, hein. Vous entendez les guillemets ? Où je vous l'ai fait, hein, voilà. Et puis, une ignorance, je dirais, de Bonaloi, une ignorance de Châtelain, mais qui à ses yeux était une ignorance de la Bible, celle des officiers catholiques, anciens élèves des jésuites, la marine, l'école de la marine, l'école navale, c'était vraiment un haut lieu des anciens élèves des jésuites. Et donc, il s'est dit, juste après la fin de la guerre, on va réévangéliser toute la France. Et c'est comme ça qu'en 1920, il fonde la cause, ça a été dit. Et son ambition, mais est-ce que je peux dire qu'il a pas réussi à la tenir comme tous les autres? L'ambition de tous les réveils, de l'armée du salut, etc., c'est de convertir au christianisme, je dirais, finalement en France, les catholiques d'origine. C'est eux qui veulent convertir. Et puis c'est dur, hein, c'est dur de convertir, il faut bien le dire, dans un pays qui n'a aucune tradition protestante. La France, soit c'est catholique, soit c'est laïque, mais la tradition protestante, elle l'a chassée de son histoire. Et bilan, même la cause, même ce géant qui était, ce fou furieux, au bon sens du terme, qui était Freddy Dürrleman, il a fini d'une certaine manière par, comme tous les autres avant et après lui, peut-être moins les évangéliques d'aujourd'hui, il a fini, je dirais, par retourner vers les vieilles terres huguenotes. Et c'est ainsi que c'est plus facile d'évangéliser la Drôme, même si elle était très sécularisée. Le Gard, il est effrayé par le niveau de sécularisation et d'oubli de Dieu dans le Gard. Mais il y a quand même ce terreau protestant, alors que c'est plus difficile dans des régions qui n'ont pas cette tradition protestante. Et j'en viens donc, j'en suis donc venu à ma deuxième partie. La cause est une mission d'évangélisation, vous le savez. Et je dirais que... Je l'ai écrit dans le livre, mais je le dirai plus nettement aujourd'hui. On est meilleur quelques mois après avoir écrit le livre. Hein. Ça n'empêche pas de lire le livre hein, et éventuellement de l'acheter pour, vous le savez, le meilleur avenir de la cause. Hein. C'est vraiment, acheter le livre, c'est un acte militant. Hein. C'est pas un acte commercial, nous sommes d'accord. Mais je le vois mieux qu'avant. Pardon de vous le dire, je ne sais pas si vous vous sentez comme ça. La cause, c'est un réveil. Avec un R majuscule. On est, je ne sais pas si Frédéric en était conscient, on est dans la pure tradition de ces vagues de réveil qui se succèdent dans l'histoire du protestantisme mondial, suisse, américain, anglais, allemand, mais aussi français. Et on est dans une période, les années 1920, qui est sans doute, je dirais presque, l'étiage du point de vue de la christianisation de la France. Il y a une laïcité qui a un peu oublié ses racines spirituelles à la Buisson dont je parlais. Et c'est une France qui connaît une série de réveils avec lesquels d'ailleurs la cause a des relations. Vous connaissez tous, j'espère, là on est entre intimes, hein, la brigade de la Drôme, Cadier, la brigade de la Drôme, pourquoi la Drôme? Et puis est-ce que vous connaissez, attention, là c'est pour les surintimes, la brigadette qui était active dans la gare de Nîmes, c'est-à-dire entre Nîmes et Alès, là où les camisards avaient fait ce qu'ils avaient à faire, mais qui était en train de... Vous savez ce que c'est? Le Gard, avant de devenir un peu noir aujourd'hui politiquement, était en train de rosir puis de rougir. Hein. Le protestantisme Cévenol, surtout Cévenol, Siegfried l'avait écrit, était en train de passer avec armes et bagages au communisme, en estimant que c'était finalement dans le droit fil de la réforme. C'est audacieux comme thèse. Passer de la réforme au communisme. Et ce n'est pas la thèse de Frédéric Durlemann, hein, ni de la cause, ça vous le savez. Ok, donc c'est un réveil, c'est la brigade de la Drôme, c'est aussi, dans ces mêmes deux décennies d'entre-deux-guerres, c'est aussi l'arrivée du pentecôtisme hein, dans les mêmes lieux. Et donc brigade, pentecôtisme, je regarde l'heure, hein, parce qu'il faut que je vous parle maintenant de l'essentiel de la cause, et la cause elle-même, c'est typiquement un réveil qui a marqué la France de l'entre-deux-guerres. Alors je voudrais maintenant, dans un troisième temps, qui est le principal, je voudrais dire ce qu'a fait la cause et je voudrais vous proposer, je vois les choses plus clairement que dans le livre une fois de plus, et puis il faut être pédagogique et didactique, hein. Ça s'affiche mon plan? Non, il n'y a pas de plan, je n'avais pas envoyé, donc ça ne peut pas s'afficher. Le PowerPoint, ce n'est pas mon genre, dans le midi, on n'est pas encore passé au PowerPoint, on est à la main, vous voyez, et on travaille la voix et la main, vous voyez? Oui, non, bon, je vais essayer de poser mes mains. Je vous propose une chronologie des grandes phases de la cause. Je vous la donne d'abord et ensuite je mettrai l'accent sur tel ou tel moment. Il y a un âge d'or pour la cause. Ce sont les années 1920. Et je crois pas plus, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mais l'âge d'or, c'est les années 1920. Ensuite, il y a l'âge des crises. Ce sont les années 1930. Il y a ensuite ce qui aurait pu être la fin de la cause, des traumatismes que la France tout entière a connus, la débâcle, l'épopée de Freddy partant avec la famille, les archives. Il y a quelqu'un qui pousse un landau bourré d'archives, je crois, c'est extraordinaire. Les voitures chargées à mort, ça aurait pu être la dissémination, la dispersion de la cause. Et puis, vous le savez, le double deuil, la double catastrophe de 1944, c'est janvier 1944 de mémoire, la mort à 15 jours de distance de Freddy, d'épuisement, et puis lié à son emprisonnement, dont je vais redire un mot, et puis de Valdo, avec ce prénom, je crois que c'est le prénom le plus protestant qui soit au monde, Valdo. Hein, alors si on était américain, Freddy aurait appelé son fils aîné Calvin, ou Calvin, mais il a choisi d'appeler Valdo. Valdo meurt dans la fleur de l'âge, vous le savez, et la décapitation du fondateur et de son héritier, je dirais, naturel, aurait pu sonner la fin de la cause, et c'est donc là l'âge, de la fin annoncée. Et puis finalement, vous avez une continuation, et cette continuation, elle est assurée dans un monde de l'époque qui était très masculin, je dirais pas misogyne, mais très masculin, y compris dans les églises protestantes. Les premières femmes pasteurs, c'est cette époque-là. Hein, j'ai nommé Elisabeth Schmitt. Vous connaissez Elisabeth Schmitt, qui était pasteur à Sainte-Croix-Vallée-Française, avant cette, etc. Et là, ce sont deux femmes qui sauvent la cause, qui assurent la continuation dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire Elisabeth Kaltenbach-Durlemann et puis sa belle-fille, Rosemarie Grelet, hein, qui est fille d'un pasteur suisse, c'est ça aussi ? Grelet, je crois, mais qui est, vous le savez, comme on disait du Christ, de la Vierge Marie, qui est de bonne famille française, Castrez, ou Mazamétène, hein, les bonnes villes. Ça va, il y a des gens des bonnes villes dans la famille, dans la salle. Voilà. Et puis ces deux femmes-là assurent donc la continuité avant donc que le couple Christophe et Rosemarie Durlemann, à partir de 1954, prennent la suite, 40 ans de règne, avant le règne du couple, mais je ne parle pas des présents, du couple donc des deux Wels. Voilà. Et enfin, sous Christophe et Rosemarie et sous les deux Wels, c'est l'âge des redéploiements dans la fidélité aux missions qui ont été dites tout à l'heure par les différents responsables, la presse, l'édition, l'adoption, les orphelinats, les aveugles, la solitude, les couples et l'évangélisation, globalement parlé. Alors je voudrais insister, revenir un peu sur cette chronologie. J'ai jusqu'à quelle heure, Alain? 11h? Tu me dis, hein? Et puis à 11h moins une minute, tu me fais signe discret. Il est caché, vous ne le verrez pas me faire des signes désespérés. Il faut me dire Cabanel, abrège. Je voulais parler de cet âge d'or et de ce qui a caractérisé la cause. J'ai été frappé, moi, par une ambition que je dirais totale ou totalisante de la cause. Dans les années 20, c'est plus qu'une mission, c'est plus qu'une œuvre, c'est une sorte, je pourrais dire une ruche bourdonnante, mais c'est un peu vieillot comme image. C'est une sorte de centrale qui s'occupe de tout, qui est sur tous les fronts, qui a une capacité de création de dynamisme tout à fait étonnante, qui d'ailleurs va finir, on peut le dire, par agacer. Vous n'avez jamais remarqué, c'est toujours agaçant d'avoir un type qui travaille plus que vous à vos côtés, le premier de la classe. En fait, je peux le dire comme ça, je n'avais pas écrit. La cause, à un moment, c'est le premier de la classe protestante française. Et les premiers de la classe, il y a plusieurs premiers de la classe dans la salle. Hein. Je ne regarde pas Gérard, je ne regarde pas Antoine. Il y en a toute une série, Alain, etc. Les premiers de la classe, ça finit un peu par agacer le reste de la classe. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Surtout qu'il y avait un autre premier de la classe. Hein. Je ne vais pas être trop long, c'est Marc Buckner. Hein. Et donc, entre les deux premiers de la classe, il y a eu, je dirais, un choc de leadership, un choc d'homme. Vous savez, y compris au sens peut-être le plus masculin du terme, entre ces deux hommes qui rêvaient l'un et l'autre pour la bonne cause, sans jouer sur les mots, c'est-à-dire pour le protestantisme et pour la France et pour le christianisme, qui rêvaient, je dirais, d'une forme de leadership. Cette ambition totalisante de la cause, je l'ai noté, je vais vous le lire très vite, hein. C'est un effet oratoire, ça me permettra de gagner du temps. Je l'ai noté, c'est le porte-à-porte, c'est la réunion dans les cinémas. La cause, c'est les cinémas, c'est comme ici. Hein. C'est la fête de plein air. C'est la voiture spécialisée. Hein. Dans les archives, j'ai trouvé comment acheter une voiture, comment acheter, vous savez, les petits camions ambulants de nos boulangers bouchers dans les Cévennes, mais pour le transformer en zone de vente de livres. Je vous le signale aussi. Alors, oui, c'est un appel. Si dans la salle, il y a une famille de Lacoste qui aurait hérité, ça m'a fasciné, vous le savez, d'un bouchon de radiateur, de voitures des années 30 en forme de croix huguenote. C'est très sérieux. Il y a tout un dossier. Et je voudrais le déposer dans un grand musée de protestantisme dont je suis le conservateur, l'euro-conservateur à deux pas de Mazamet, à Ferrières dans le Tarn. Lacoste avait inventé les bouchons de radiateurs en forme de croix huguenote, en disant les protestants qui sont si rares se reconnaîtront. Et puis, ça aide, un conducteur qui a une croix huguenote sur son bouchon sera un vrai protestant, c'est-à-dire respectueux des limitations de vitesse. Je peux vous dire que je ne suis pas très protestant de ce point de vue-là. Je sens... Non, c'est pas vrai. Oh, c'est extraordinaire. Oui. Oui. Alain, tu me pièges. Alors, ce moment de joie est décompté de mon temps de parole. C'est comme au foot, hein. OK. Non, il a attendu... Ça c'est quand même... C'est limite pour me décontenancer. Il attend que je sois en public, en conférence, pour montrer cette chose que j'attends depuis 3 ans. Voilà. Donc, si jamais tu acceptais, je ne sais pas à qui il appartient, de le donner au musée de Ferrières, c'est formidable. Parce qu'on a besoin d'un musée national, je le signale, le président du Sénat. Mon rêve, sachez-le... Pardon, monsieur le président, mon rêve, c'est que la France, qui a un musée d'art et d'histoire du judaïsme de toute beauté, se dote d'un musée national du protestantisme. Hein? Voilà, merci, bravo. Je vous remercie pour ce futur musée. Et puis, il a été applaudi devant un des grands responsables de l'État. Je pense qu'on est sur de bons rails. Voilà, merci. Pardon pour cette minute que donc Alain me décompte. Alors, ce sont les voitures, c'est aussi la presse, je ne vais pas détailler, mais c'est un empire de presse, d'une certaine manière, la cause, dont il reste aujourd'hui les nouvelles de la cause, bien sûr. Ce sont les traités religieux, ce sont les projections, c'est le cinéma, la cause a été entrepreneur de cinéma, ce sont les disques, vous savez qu'elle a fait des disques, la cause. C'est l'évangélisation des milieux professionnels par eux-mêmes. Ça, les catholiques faisaient à l'époque la même chose, hein. Les infirmières, les instituteurs, il y avait un projet de cheminots, il y a toute une série de groupes, les étudiants bien sûr. On est, vous savez, c'est l'époque aussi, c'est l'époque où se crée dans le monde catholique la JAC, la JEC, la JOC, la JIC. La JIC, c'est les indépendants. Et puis la JMC, ça c'est pour les intimes. C'est quoi la JMC ? C'est la jeunesse maritime chrétienne. C'était pour les bretons catholiques, voilà. C'est aussi une maison d'édition. Moi, ça m'a passionné, c'est toujours une maison d'édition. Mais je voulais vous dire que la cause, tu as parlé du social, du spirituel, il y a aussi le mémoriel. Cette cause qui est fondée par des gens qui sont, par, je l'ai dit tout à l'heure, généalogiquement extérieurs à l'histoire française, elle a été une championne de la mémoire, des lieux de mémoire du protestantisme français. Je crois que Marie Durand, ça va Marie Durand ? Ouais. Et la Tour de Constance ne serait pas ce qu'elles sont sans la cause, sans le livre qu'elle a édité, réédité, Marie Durand, sans, je vais le citer, la cause a été aussi l'une des inventrices, si on peut dire, du théâtre populaire français. Là, je vais faire un parallèle qui aurait surpris Freddy Durleman. Il a été un Jean Villard. Il serait très surpris, hein, Jean Villard n'est pas tout à fait politiquement du même bord, un Jean Villard de l'entre-deux-guerres, avec ce théâtre populaire qui a eu un énorme succès, et notamment la pièce d'un pasteur, le mot, très beau titre de génie, le mot qui fut gravé, le célébrissime « Résister » de Marie Durand. Voilà. Y a un roman huguenot, vous connaissez Sabine Malplache, Lucie Rosier-Fontaine ? Vous ne lisez plus vos classiques, hein. Il y a un roman huguenot, il y a un théâtre huguenot, il y a un cinéma huguenot. Et là, je dirais que dans l'entre-deux-guerres, les deux poumons de la mémoire protestante française, c'est la cause qui a relancé d'ailleurs la croix huguenote, et pas seulement sur les voitures, et c'est le musée du désert, voyez. Mais il y a vraiment un travail qui est mené ensemble. Alors, je signale aussi, j'essaie d'aller vite, hein, je signale, ça m'a surpris, stupéfait, le jeune Théodore Monod, que je voyais comme celui que nous voyons tous, Théodore Monod, hein. Eh bien, le jeune Théodore Monod, dans les années 20, sa passion, c'est de rééditer, il le fait, de rééditer à la cause une anthologie du livre des martyrs de Jean Crespin, le grand martyrologe protestant du XVIe siècle, les brûlés, etc. Il le réédite, il voudrait même en faire, c'est une idée que je donne aux pasteurs dans la salle, hein, si vous voulez rénover votre liturgie, il voulait en faire une sorte de lecture liturgique dominicale. Chaque dimanche, on aurait lu au culte une vie de martyr du XVIe siècle. Et c'est Théodore Monod qui a 25 ans et qui est déjà en train de partir, évidemment, dans sa vocation saharienne. Voilà. Alors, j'en termine quasiment, Alain. Oui, j'en termine dans une minute, ça va ? Pour dire que dans les années 30, la cause a eu des difficultés pour des raisons internes et raisons externes. Une phrase pour chacune des deux. La raison interne qui m'a beaucoup intéressé et que les historiens en général qui ne savent pas grand-chose à la cause croient savoir, dans les années 30, elle a été profondément marquée, la cause, Freddy Durleman, par, je dirais, le défi que lui paraissait lancer à la civilisation chrétienne, le communisme soviétique. Et donc il y a eu une forme de dérive dans l'anticommunisme qui a coûté cher en termes d'image à la cause. Un certain nombre de protestants se sont retirés à ce moment-là, protestants plutôt de tradition de gauche à la française, du fait de ce combat anticommuniste sans faille qu'a mené Freddy Durleman. Deuxième point, il y a eu donc une querelle, je dirais une querelle pour le leadership du protestantisme. La cause était tellement dynamique, ça me paraît très intéressant, qu'un certain nombre de pasteurs, les responsables de la Fédération protestante, un certain nombre de paroissiens ont estimé que la cause était en train, en quelque sorte, de doubler le tissu paroissial. Il y avait des groupes de la cause dans beaucoup de paroisses, et il y a eu une forme d'inquiétude liée à l'esprit même de conquête de la cause. Voilà. Alors, dans les années 40, et puis j'en viendrai à nos jours et je conclurai, dans les années 40, vous devez le savoir, Freddy Durleman, en dépit de son anticommunisme des années 30, dans les années 40, vous le savez, c'est le premier pasteur qui a été emprisonné par les Allemands à Paris pour fait avéré de résistance. Et là, on n'est même plus dans la résistance spirituelle, on est dans la résistance politique tout court. Édition, expansion, diffusion de tracts. Voilà. Et vous savez, par ailleurs, ça j'avais découvert depuis très longtemps, en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, dans j'ai oublié la radio pour la cause, j'ai oublié le média majeur, le média le plus moderne où, où la cause s'est rendue célèbre, c'est les émissions de radio à partir de 1928. En 1933, Freddy Durlemann a prononcé une allocution contre l'antisémitisme en général, splendide. Voilà. Et puis, en 1939, Waldo a publié, on y revient à Mein Kampf, il a publié une anthologie des pages de Mein Kampf pour montrer aux Français le péril que ce livre, que Hitler avait interdit de répandre en France, interdit devant la loi, que ce livre représentait pour les Français. Et comme par hasard, c'est un petit livre, c'est 40 pages, il y a les pages contre la France de Hitler, mais il y a aussi les pages d'Hitler contre les Juifs, qui a priori était moins intéressante pour des Français, mais voyez cette lutte contre l'antisémitisme chez les Durlemann, et puis France Durlemann, la fondatrice du cours Bernard Palissy, ça je l'ai appris en faisant le livre, a accueilli des Juifs clandestinement au cœur de Paris. Voilà, donc la cause dans les années 40, vous l'avez compris, est sortie décapitée, si on peut dire, en ayant perdu ses deux fondateurs, mais est sortie avec l'honneur totalement sauf. Et vous me direz, c'est presque banal le protestantisme, mais c'était à signaler. En conclusion, pour dire que, évidemment, la cause, c'est une œuvre fortement liée à un fondateur, qui aurait pu disparaître à la mort du fondateur, mais qui a réussi sa pérennisation. Ça me fait penser un peu un autre classique du protestantisme français, la fondation La Force de John Bost. La Force n'aurait pas existé sans John Bost et sa femme. La cause n'aurait pas existé sans Freddy et sa femme. Mais une fois les fondateurs passés, ce n'est pas toujours le cas, l'œuvre s'est pérennisée. En phrase de conclusion, je dirais que la cause s'est assagie, Alain, je peux le dire comme ça. Alain est un homme sage, vous l'avez remarqué. Elle s'est assagie après des débuts qui ont été flamboyants et controversés, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui la cause soit terne et consensuelle, mais Freddy était vraiment l'homme du flamboiement et de la controverse. Et puis je dirais, pour terminer, je vais finir sur un paradoxe, genre, vous savez, sujet de philo pour Bach, pas pour Cagne, pour le bac. L'histoire de la cause, c'est l'histoire d'un réveil qui dure. Et normalement, un réveil, par définition, ça ne dure pas, mais en même temps, je dirais que ce paradoxe-là, il est profondément lié à la cause, il est profondément protestant. L'histoire de la vitalité du protestantisme, c'est l'histoire de réveil qui dure. Et je vous salue une dernière fois, je ne vous bénis pas, hein, mais je vous salue avec la croix huguenote. Merci.